Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Amine Birouko en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi Élisée Nkpatine depuis Boyukon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Nous retrouvons Amdine Sy dans l'Ohio ici aux États-Unis. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Également avec nous Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Donc Jules qu'on va essayer d'avoir d'ici là. Je ne sais pas si on a Thierry Kambundi de Top Congo FM. Et donc on aura également Thierry d'ici là. Alors, le week-end a été marqué par les coupes africaines, de nombreux matchs en Ligue des Champions et en Coupe CAF. Nous commençons par la Ligue des Champions où se sont joués les premiers matchs des phases de poule dans le groupe A. Entrée en matière réussie pour le vainqueur de l'édition 2017, le Wydad Casablanca. Les Marocains ont cartonné les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa 5-2 dans un match délocalisé à Rabat. Écoutons Amani Yao, l'entraîneur de l'ASEC Mimosa.
J'ai dit une première mi-temps assez équilibrée. Après, sur la deuxième mi-temps, dès l'entame, on a offert le deuxième et le troisième but à partir de ce moment-là devant une équipe expérimentée du WAC plus que la nôtre. C'est devenu un autre match. Je pense que sur l'ensemble du match, ils ont mérité la victoire.
C'était donc Amani Yao. Alors, Amine, bon début pour le WAC, même si le match s'est joué à Rabat.
Excellent début du Wydad dans une rencontre délocalisée en raison de la fermeture du complexe Mohamed V de Casablanca, une fermeture qui durera juste jusqu'à la fin de la saison. Donc les supporters du Wydad devront se résoudre à se déplacer 100 km plus au nord pour pouvoir soutenir leur équipe dans les matchs à domicile. Mais quoi qu'il en soit, le Wydad a fait le job. Le Wydad a été solide de bout en bout. Il y a eu un petit moment de relâchement alors que l'équipe menait dès le quart d'heure de jeu 1-0 sur une superbe frappe qui a permis Lucas qui a permis l'égalisation de la SEC. L'équipe de la SEC n'a pas été très dangereuse tout au long de la rencontre. Le Wydad a marqué 5 buts par 5 joueurs différents, ce qui en dit long sur la créativité du milieu de terrain, sur l'efficacité de cette équipe du Wydad qui semble avoir retrouvé des couleurs au moment du retour de son nouvel ex-entraîneur Fawzi Benzerti, qui avait quitté le club à la fin des phases de groupe la saison dernière, ce qui avait certainement été pour beaucoup dans le rendement décevant du Wydad en quart de finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est une machine qui tourne quasiment à plein régime et qui est capable de se procurer de très nombreuses occasions, surtout de les concrétiser. Hier, ou plutôt vendredi, le Wydad a montré un jeu enthousiasmant face à une équipe beaucoup plus naïve, beaucoup moins expérimenté, qui a donné quelques cadeaux, notamment sur le deuxième but, qui a déclenché la Bérésina pour la SEC d'Abidjan, l'équipe de la SEC loin de son lustre passé. C'est un bon début pour le Wydad de Casablanca, un essai marqué à transformer dans une semaine, ou dans quelques jours exactement, samedi prochain, à Pretoria, face à l'équipe sud-africaine des Mamelodi Sundowns.
Merci bien. Amine, à l'issue de cette première journée, le WAC occupe donc la tête de cette poule A, devant les Nigériens de Lobi Star, qui ont surpris les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, 2-1, un peu plus tôt. Alors, Élisée, Lobi Star signe une grosse sensation tout de même.
Oui, une grosse sensation face à un ancien vainqueur de cette Ligue des Champions, Mamelodi Sundowns, qui a vu plusieurs de ses joueurs partir, notamment un qui évolue actuellement dans le championnat belge. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de départs et encore un effectif qui n'est pas totalement, qui n'a pas été totalement renouvelé. C'est vrai que il y a l'Australien qui a posé ses valises là, l'attaquant Grobler qui a quitté Supersport, une équipe d'Afrique du Sud, pour rejoindre actuellement le club qui fait les beaux jours de cette première ligue sud-africaine, puisque en tête de ce championnat, c'est quelque chose. C'est vrai que Bishwick a été champion devant Mamelodi Sundowns. C'est-à-dire que l'équipe obtient actuellement est face aux Nigériens qui ont donné beaucoup, qui se sont donné beaucoup afin de remporter ces 3 points. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de transferts du côté du club Lobi Star, notamment des Béninois. 3 Béninois ont signé dans cette équipe, 3 Béninois, anciens champions du Bénin avec les Buffles du Bangou, les Buffles de Parakou, comme on les appelle ici. Il y a le latéral gauche, Bawa, qui a signé là-bas, le défenseur central Samaré, qui est aussi, qui s'est aussi engagé avec l'équipe nigériane, avec le milieu terrain des Buffles de Parakou, Chakatola, qui aussi a signé un contrat deux ans avec l'équipe de Lobista, c'est dit que les Béninois ont porté largement cette équipe et ça fait qu'ils ont remporté les trois points devant Orlando Pirates, qui n'est pas n'importe qui. Malheureusement, donc j'allais dire qu'il n'est pas n'importe qui sur le continent africain.
Merci bien, Élisée. La sortie du champion en titre était attendue dans le groupe B. En déplacement en Guinée pour affronter le Oroya, l'Espérance Tunis a eu chaud. Alors, Amdine, les Saïs Oroya ont finalement arraché un match nul inespéré, on va le dire, dans les arrêts de jeu.
Oui, tout à fait. Yacouba, vous savez que le Oroya est devenu vraiment une équipe redoutable, hein, parce que c'est une équipe à ne pas sous-estimer, puisque le Oroya a tenu la dragée haute face à une équipe comme le WAC il y a deux ans, le WAC qui avait gagné cette année la Ligue des Champions. Depuis lors, le Oroya a pris une dimension dans cette compétition. Les Guinéens croient à leur étoile. Maintenant, ils se sont dit, ils ont fait les phases de poule. Maintenant, il faut bien négocier le match pour pouvoir quand même franchir une étape supérieure pour capable jouer les demi-finales. C'est pourquoi le Oroya a bien tenu la dragée haute face aux champions en titre. C'est comme ça, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Maintenant, l'essentiel, c'est de continuer le travail, puisque faire un bon résultat face aux champions en titre ne veut rien dire, mais il faut confirmer, essayer encore de confirmer. Mais pour aussi le champion, il faut comprendre que quand on gagne quand même une compétition comme la Ligue des Champions, quand on revient, la motivation reste. Il faut attendre encore les matchs de poule et les matchs à résultat immédiat pour pouvoir quand même monter un peu en puissance. En tout cas, je dis que c'est vrai que l'espérance là échappe belle, mais c'est une bonne performance quand même pour le Oroya de Conakry.
Dans l'autre match du groupe B, le FC Platinum et Orlando Pirates ont aussi partagé les points à leur tour, 0-0. Alors, Jules nous a rejoint. Bonsoir, Jules.
Bonsoir, Yacouba. Bonsoir à tous.
Alors, Jules, que de matchs nuls dans ce groupe B?
Oui, mais c'est prévisible. Et l'Espérance, étant en déplacement, rencontrait un de ses paris partenaires dans la poule. Et il fallait s'attendre à ce que Oroya confirme le bon parcours de l'année passée. C'est ce qui s'est passé. Ici, le Platinum, déjà, joue dans les phases de poule. Ne serait-ce que de la deuxième compétition depuis quelque temps, et on savait que dans cette poule, l'Espérance est favorite, et il y a trois prétendants sérieux qui se disputeront sûrement la deuxième place de qualification, et c'est ce qui se traduit dans ces rencontres qui au départ sont équilibrées, mais où les plus armés, qui ont l'effectif le plus riche, feront la différence par la suite.
Dans le groupe C, le TP Mazembe a pris son temps face à Ismaili d'Égypte. Alors Thierry, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Alors finalement, les Corbeaux de Lubumbashi se sont imposés 2-0 grâce à deux buts inscrits dans les 10 dernières minutes.
Des buts inscrits dans les ultimes minutes effectivement de cette rencontre très difficile pour les Corbeaux de Mazembe qui ont peu avant la pause perdu leur entraîneur, l'international ivoirien Sylvain Gbohou, expulsé.
Leur gardien de but.
Oui, leur gardien de but, j'allais dire Sylvain Gbohou, expulsé suite à un coup de coude asséné à un adversaire. Heureusement pour lui et pour Mazembe que son remplaçant, Aimé Bakula, a arrêté le penalty d'Ismaili juste derrière sa sortie. C'est donc à 10 contre 11 que les Corbeaux de Mazembe ont tenu bon devant leur public avant de marquer coup sur coup ces deux buts suite à des passes décisives de Mputu Mabi Trésor et de l'emporter finalement 2-0 pour bien lancer cette phase des groupes. Et pour la petite histoire, quelques minutes après, avant de délivrer la première passe décisive pour l'ouverture du score, Pamphile Miayo a failli sortir Mputu Mabi Trésor. N'eût été la contestation du public, du show public de Mazembe, Mputu Mabi Trésor allait se retrouver à l'extérieur. Et en fin de compte, c'est lui qui a fait le match, car c'est lui qui a délivré les deux passes décisives pour les buts des Corbeaux. Donc les Corbeaux qui ont eu très chaud, mais qui n'ont pas de temps de repos. Je viens d'avoir leur entraîneur Pamphile Miayo qui m'a annoncé que c'est demain qu'ils vont prendre leur avion pour l'Algérie afin d'aller affronter leur prochain adversaire ce week-end. Donc c'est une belle opération pour Mazembe de remporter ce match à 10 contre 11 devant son public et les Corbeaux qui ont très très bien lancé donc de ce fait cette phase des groupes de la Champions League.
Merci bien Thierry. Et donc vous le disiez tout à l'heure, les Corbeaux qui vont rencontrer le CS Constantine d'Algérie, présent pour la première fois à ce niveau de la compétition et qui a surpris le club africain 1-0 chez lui à domicile. Dans le groupe D, les Algériens de la JS Saoura ont chuté en Tanzanie face à Simba 3-0. Cette première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions s'est achevée par la victoire dans la Ligue 2-0 contre l'AS Vita Club dans le choc du jour. N'empêche, l'entraîneur de l'AS Vita Club, Florent Ibengue, ne désespère pas. Écoutons-le.
Bah déjà, le fait de se retrouver à 10 contre 11, c'est compliqué. Déjà, vous jouez la meilleure équipe africaine. Vous arrivez à égalité numérique. On savait qu'en les bloquant et puis après, en les pressant petit à petit, on allait prendre des possibilités. Parce que cette équipe, quand vous la pressez, on a vu qu'elle était plutôt un petit peu en difficulté. Mais à partir du moment où vous vous retrouvez à 10, ça devient plus compliqué. On a eu aussi des opportunités pour revenir, même à 10 contre 11. On n'a pas saisi, donc maintenant, il faut regarder vers l'avant. Il reste 5 matchs et il faut qu'on se retrouve en quart de finale.
Alors Thierry, je me retourne encore vers vous. Ça s'annonce quand même compliqué pour Florent Ibengue et les siens, devant le géant égyptien, surtout à 10 contre 11.
C'est le paradoxe du week-end pour les clubs de la République démocratique du Congo. Le tout-puissant Mazembe l'a emporté face à l'Esmalie d'Égypte à domicile à 10 contre 11. Et à 10 contre 11, à Alexandrie, l'association sportive et club a perdu face au National du Caire. Florent Ibengue a décrit le match, l'association sportive et club qui avait un morceau dur à croquer d'entrée. A buté justement sur les finalistes malheureux de la précédente édition de la Champions League. Après cette réduction, on va dire, enfin, après l'expulsion de ce joueur de l'association sportive et club, les Dauphins Noirs n'avaient pas d'autre choix que de reculer et d'essayer de se projeter de temps en temps sur des contre-attaques, mais c'était sans compter sur la détermination des Rouges d'Alali qui ont cru, qui ont poussé et qui peu après l'heure de jeu ont ouvert le score avant d'obtenir par la suite un penalty suite à l'erreur de l'expérimenté gardien de but de V-Club Nelson Lukong Bongaman. Donc V-Club a perdu, même si les Dauphins Noirs ont eu à certains moments du match des phases intéressantes. Ils ont tenté, leur entraîneur l'a dit, mais Florent Ibengue a également souligné qu'il nous reste 5 matchs pour nous qualifier. Cette défaite nous fait mal, mais nous allons très vite nous relever pour revenir à la maison nous relancer dès la prochaine journée. V-Club a intérêt justement à sauver sa saison après avoir perdu arme à la main la finale de la Coupe de la Confédération la saison dernière. Et Florent Ibengue et ainsi que tous les joueurs sont conscients, même si l'adversaire ce samedi était très 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 compliqué à manœuvrer.
Vous suivez Sporama, suivez Afrique en Coupe CAF. C'était les matchs des barrages aller et c'est mal engagé pour le stade malien accroché devant son public par Petro Atlético d'Angola 1-1. Écoutons Noun Diané, coach du stade malien de Bamako.
C'est regrettable le fait que ça s'est terminé sur un match nul. On a laissé sachant réellement des buts où on peut le mettre au fond. Il faut le faire. Il faut le faire sur un match comme ça. Et je pense que le plus important, c'est de marquer les occasions que tu as.
Retour concrètement.
Il faut forcément préparer. Déjà, je pense que ça va se jouer sur le plan mental. C'est pas facile de jouer à l'assurer. Mais nous, on n'a pas le choix. On va quand même essayer de tout donner quand même pour essayer de gagner là-bas.
C'était donc Noun Diané, coach du stade malien, au micro de notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré. Alors, Élisée, beaucoup de regrets pour les Maliens.
Ouais, puisque lors de du précédent tour, que l'équipe malienne a eu à discuter avec la SEC d'Abidjan, c'était en Ligue des Champions, on a vu que c'était presque le même scénario où le stade malien a raté beaucoup d'occasions et finish. Les Ivoiriens l'ont emporté 1-0. Au match retour, les Ivoiriens se sont qualifiés cette fois. C'est face aux Angolais, le Petro Atlético, qui actuellement est en tête de son championnat devant le Primeiro do Agosto qui allait jusqu'en demi-finale la saison écoulée en Ligue des Champions, ça va être très difficile. Il faut dire aussi que la crise qui secoue le football malien n'arrange pas du tout ces clubs, hein, puisque le championnat ne s'est plus joué dans ce pays il y a fort longtemps. Heureusement que le gouvernement, hein, à travers son ministère, avec la fédération, se sont compris. On aura très bientôt le championnat qui va reprendre avec un championnat sérieux, il faut le dire, puisque déjà les clubs se sont déjà réunis à travers une réunion et se sont déjà compris. Donc c'est dire que cette crise n'a pas du tout arrangé les clubs maliens. Aujourd'hui, le Stade malien peine à se faire valoir au niveau du continent. C'est bien dommage. On attend que nous, Dramé, hein, trouve la bonne formule pour aller se qualifier du côté de Luanda.
Merci bien, Élisée. Difficile aussi, hein, pour les Ivoiriens du FC San Pedro qui ont pris un lot en Zambie 3-0 contre le Nkana FC. Alors, Jules, match aller raté totalement, hein, pour les clubs camerounais. Coton Sport de Garoua battu à domicile 2-3 par les Ghanéens d'Asante Kotoko et New Star de Douala tombé 2-1 au Kenya face à Gor Mahia.
Oui, ce qui reflète le niveau du championnat interne camerounais qui perd ses meilleurs joueurs chaque année, même les petites pousses qui sont en formation et qui est dans l'inorganisation et même à certains moments dans l'inactivité. Donc je crois que c'est la traversée du désert qui continue pour ce championnat qui a intérêt à se recevoir et à trouver des stratégies nouvelles.
Merci bien. Pas de but dans l'affiche entre l'Etihad Tanger et le Zamalek. Tout se jouera au retour en Égypte. Dans l'autre gros derby, les Zambiens de Zesco ont en revanche pris une option face aux Sud-Africains de Kaizer Chiefs. 3-1. Tenant du titre, le Raja Casablanca a assuré l'essentiel en ramenant un match nul 1-1 de la Namibie face à African Star. On écoute Juan Carlos Garrido, l'entraîneur du Raja, qui se plaint de la qualité de la pelouse.
Alors c'est une condition que je ne sais pas pourquoi ça accepte de jouer à 7 heures avec cette température, avec cette climatologie, mais nous devons jouer, c'est notre obligation, nous déjà fait le match, un match que nous devons savoir que c'est dangereux parce que l'équipe adversaire connaît cette condition, il veut faire l'avantage de cette condition, et je pense que l'équipe a travaillé bien et nous devons accepter que dans le match il y a des erreurs parce que c'est une situation difficile, jouer en cette condition c'est difficile. L'équipe a fait un bon effort, je pense que le résultat de la première mi-temps c'est un accident, je pense que le deuxième mi-temps l'équipe a fait le but que je pense que c'est juste pour le match, c'est maintenant c'est un bon résultat, mais je connais très bien que le prochain match à Maroc, non à Casablanca, malheureusement nous ne pouvons pas jouer à Casablanca une autre fois, mais c'est le match décisif et nous devons travailler pour en sept matchs à conseguir la qualification.
C'était donc Juan Carlos Garrido, l'entraîneur du Raja Casablanca, et son qui nous est parvenu grâce à Amine Birouko. Alors Amine, pelouse difficile, mais ce but inscrit à l'extérieur permettra tout de même au Raja de recevoir beaucoup plus tranquillement, hein, au match retour.
De jouer beaucoup plus sereinement le match retour, d'autant plus que l'équipe du Raja est partie en Namibie avec de très nombreux joueurs indisponibles. Ces blessures ont été palliées par l'enthousiasme des jeunes remplaçants et surtout par le métier que commencent à acquérir les joueurs les plus expérimentés. Il y a eu également un autre conditionnant dans ce match, les conditions climatologiques, puisque c'est l'été austral, le gazon synthétique avec la chaleur, avec le soleil, un match qui se déroule à la mi-journée. C'est quand même un handicap et malgré tous ces éléments, l'équipe du Raja a su faire le dos rond après avoir encaissé le premier but et puis prendre le match à son compte à partir du début de la seconde mi-temps. Une égalisation très précoce à la 51e minute par Rahimi, héros de la finale aller de la Coupe de la CAF. Et puis beaucoup de gestion, beaucoup de maîtrise après un long voyage qu'ils ont mené de Casablanca à Doha au Qatar jusqu'à Windhoek. Le match retour est prévu dimanche à partir de 17h heure marocaine, 16h GMT à Marrakech. Gageons que le Raja de Casablanca saura trouver les arguments pour pouvoir continuer à défendre son titre et surtout se qualifier vers la phase de groupe de cette Coupe de la CAF.
Merci bien, Amine. L'autre club marocain, le Hassania d'Agadir, s'est imposé 1-0 en Éthiopie contre Dima Abba Jaffa. Belle opération pour les Congolais de l'AS Oto, vainqueur à domicile 3-0 contre Kampala Sidi. Alors, les Soudanais d'Al Hilal ont pris le dessus sur Moukoura 3-0. Al Nasr Benghazi SC de la Libye a fait le service minimum 1-0 face au Burkinabé de Salitas. Vous suivez Sporama, suivez Afrique. Nous revenons tout de suite. Retour sur ce qui s'est passé à Dakar la semaine dernière. La capitale sénégalaise a été celle du foot africain pendant 48 heures au moins. L'Égypte accueillera la CAN 2019 qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet prochain. Le pays des pharaons a été préféré à l'Afrique du Sud par le comité exécutif de la CAF. Amine, nous sommes à 6 mois de la compétition et l'Égypte devra relever un double défi. Celui des infrastructures, bien sûr, pour une CAN qui va se jouer à 24, mais surtout le challenge sécuritaire.
Le challenge sécuritaire qui hante tous les responsables de la CAF. Le dossier égyptien, paraît-il, était bien ficelé. Ils avaient présenté au nom du président de la Fédération égyptienne, Annie Abourida, membre du comité exécutif de la CAF, un plan sécuritaire assez conséquent. Un élément qui a dû plaider en faveur du dossier égyptien, d'autant plus que l'Afrique du Nord n'a plus organisé la CAN depuis 2006. Il y a eu quasiment unanimité autour du dossier égyptien, d'autant plus que l'Égypte présente des infrastructures de qualité. Le Caire devrait pouvoir accueillir 2 groupes. Alexandrie pourrait en accueillir 2 autres. Et puis il y a d'autres villes comme Ismaili, comme Port Saïd ou comme Suède qui sont également à 150 voire 200 kilomètres du centre névralgique qu'est le Caire. Il reste cet aspect sécuritaire, cet aspect qui empêche le football et le championnat égyptien de se dérouler avec un nombre important de spectateurs. Sachez que la plupart des rencontres du championnat égyptien se déroulent à huis clos. Il va falloir résoudre cette équation parce que la CAN doit être festive avec le maximum de supporters égyptiens et le maximum de supporters des 23 autres nations qui disputeront cette édition 2019 du 15 juin au 13 juillet prochain.
Merci bien. Alors, la nation arc-en-ciel a dénoncé une décision politique dans l'attribution de cette CAN 2019 à l'Égypte. Le président de la CAF, Ahmad, a en effet relevé que les 2 candidats disposaient de bonnes infrastructures, mais a assuré que l'Égypte a dévancé son rival en termes de soutien politique de son gouvernement. Alors, Amdine, est-ce que ce soutien politique du gouvernement est-il, j'allais dire, un critère suffisant pour attribuer cette CAN à l'Égypte plutôt qu'à l'Afrique du Sud?
Tout à fait, Yacouba, mais avant de me prononcer sur la Coupe d'Afrique qui va s'organiser en Égypte, j'aimerais te donner quand même le résultat du match Djaraf contre Renaissance Bergame. Le club sénégalais vient de battre à l'instant même le club marocain sur le score de 2-0. C'est Hassan Bouch qui a ouvert le score à la 6e minute avant que Amadou Kane ne double la mise à la 42e minute, signalant que Djaraf a terminé cette partie à 10 après l'expulsion de Tending à la 58e minute et que les Marocains ont raté un penalty. Donc c'est une bonne option pour la qualification, mais il reste la seconde manche à disputer. Sachez que le Djaraf viendra vers l'affront parce que c'est la première fois qu'un club sénégalais s'impose face à un club marocain depuis qu'on a commencé cette phase de poule au niveau de la CAF et au niveau de la Ligue des Champions. Donc le Djaraf est à 90 minutes d'entrer dans l'histoire parce que jamais depuis 2004 un club sénégalais n'a réussi à se qualifier pour les phases de poule.
Merci bien Amdine pour cette information.
Je dirais que c'est très important, Yacouba, puisque on a l'habitude de dire, même la FIFA a l'habitude de dire que le football c'est l'affaire des fédérations, mais c'est pas vrai parce qu'en Afrique c'est l'affaire des États, c'est l'affaire des gouvernements. Quand les dirigeants de la CAF ont besoin d'organiser une compétition comme la Coupe d'Afrique, la première des choses c'est de voir comment les présidents de la République peuvent quand même donner l'aval à la fédération pour pouvoir l'organiser. Donc c'est très important pour moi. Pour moi, on n'a pas dit tout ce qui s'est passé entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. Moi, je pense sincèrement, c'est parce que tout simplement, l'Égypte, comme Amine l'a dit, les infrastructures.
Et donc, Amdine, qu'on a du mal à entendre. Alors, l'autre événement important, bien sûr, qui a marqué la semaine dernière, c'est l'attribution du Ballon d'Or africain. Le trophée, donc, est revenu, on le rappelle, à Mohamed Salah. Alors, Thierry, on va le dire, c'était sans surprise, en quelques secondes.
C'était sans surprise, je l'avais prédit, et comme moi, beaucoup d'autres confrères l'avaient dit, Mohamed Salah était au-dessus de ce trio. Donc, c'est somme toute logiquement qu'il a remporté ce ballon d'or. Il est sur une bonne dynamique. Il a fait des très belles performances en club comme en sélection, malgré l'élimination au premier tour à la Coupe du Monde. Donc, c'est logique que Mohamed Salah ait remporté ce trophée pour la 2e année consécutive devant Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang.
Merci bien, Thierry. En bref, sachez que le comité exécutif, la FIFA, s'est réuni à Marrakech, au Maroc. se réunit, disons, à Marrakech, au Maroc, et donc à partir de demain jusqu'au 17 janvier pour discuter de l'avenir, on va dire, du football mondial, entre autres sujets de discussion. On aura bien sûr cette possibilité d'avoir une CAN à 48 équipes dès Qatar 2022, et donc on attendra de voir. Et donc merci à vous, chers amis consultants, d'avoir été présents durant cette émission. Yacouba Ouédraogo vous a présenté Sporama qui s'achève ici, et on se dit tout simplement à la semaine prochaine.